BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements, de nos rénovations. On va parler que de ça aujourd'hui parce que ça démarrera avec notre pro de l'IMO du jour qui va nous faire rénover et passer un logement de la lettre F à la lettre B. Oui, c'est possible. Bon, attention, hein, je vais pas vous mentir, s'agit pas d'un petit appartement en copro, on parle bien d'une maison. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Je disais que c'était un sujet 100% réno aujourd'hui dans les experts de l'IMO parce qu'aujourd'hui, on va essayer de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend de quel côté on se place. Si on achetait une passoire thermique pour gagner de la surface, bah ouais, en fait, finalement, il peut y avoir des avantages à acheter un logement F ou G. N'en déplaise à notre pro de l'IMO du jour qu'on retrouve tout de suite, justement.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Jean-François Bégaud, responsable de l'agence Illico Travaux de Redon. Bonjour Jean-François.
Bonjour Marie.
Ouh là là, il y a une captation qui n'est pas terrible. Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus de bonjour pour voir si la captation fonctionne, si notre échange peut fonctionner paisiblement puisqu'on voulait parler rénovation avec vous. Est-ce que vous avez 2-3 mots à me dire juste?
Oui, bonjour Marie, oui,
je suis ravie. Ouais, donc je confirme qu'on vous entend super mal. Du coup, bah, on va essayer de voir si on peut vous retrouver peut-être autrement. Mais l'idée aujourd'hui dans notre pro de l'IMO du jour et avec vous, Jean-François, c'était de parler justement d'un accompagnement pour rénover une maison des années 50 et qui est passée donc de la lettre F à la lettre G. Et c'était des propriétaires qui avaient envie de faire juste des travaux d'embellissement et que vous avez convaincu de faire des travaux de rénovation énergétique. Et au final, ils y ont fortement gagné. En plus, ils ont pu être aidés pour faire les travaux. Je sais pas si en régie, on peut me dire si on a une communication, ils sont en train de l'appeler au téléphone. C'est hyper technique ce qu'on est en train de faire, Jean-François, c'est que vous allez voir, vous avez Vénédia Carrara qui travaille avec moi sur l'émission, qui est une femme formidable, qui est censée être en train de vous appeler par téléphone pour qu'on puisse vous entendre et qu'on coupe le WhatsApp, la visio, pour qu'on puisse vous entendre. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si on passe tout de suite au débat et on voit si on vous retrouve. On passe au débat, me dit Alban. Toute l'équipe est mobilisée. Écoutez Jean-François, sinon on se retrouve soit en fin d'émission, soit demain, mais promis, on parlera de votre superbe maison. Allez, on passe au débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Il y a des jours comme ça, je pense qu'on est tous dans les mêmes situations au quotidien. Mihai Gavriloiu, CEO de Gofin, je crois que j'ai bien dit son nom pour la première fois
facile,
en l'espace
maintenant.
De 10 ans. C'est trop facile, mais c'est un truc de dingue. Salut Mihai.
Bonjour Marie.
CEO de Goflint et Hervé de Grève, c'est plus facile à dire, cofondateur de Vasco. Comment ça va Hervé?
Bonjour Marie, ça va très bien.
Bon, et puis là, ça capte bien, quand on est physiquement au plateau, c'est un petit peu plus simple. Alors je disais 100% réno, bon, on allait vous parler d'une maison rénovée, et c'est vachement bien de rénover, et c'est ce qu'on va dire quand même. Hein. Mais bizarrement, on a envie de voir le verre, c'est ce que je disais à moitié plein, sur l'achat d'une passoire thermique. Mihai, je voulais rebondir sur une étude que vous avez réalisée chez Goflint, et qui prouve que finalement... Parfois, acheter une passoire thermique, ça a du bon, on paye moins cher et on gagne de la surface, du coup.
En fait, c'est une accession à la propriété qui, pour un primo-accédant qui peut être plus simple, avec un pas de financement qui est plus bas, et rien n'oblige le primo-accédant à faire ses travaux tout de suite. Donc typiquement, à Paris, sur un budget stéréotype, on pourrait éventuellement acheter à peu près 10 mètres carrés de plus en achetant une passoire thermique, plutôt qu'en achetant un bien de type A, B, C, voire D, au niveau de la surface. Et puis on va avoir des villes comme Le Mans, comme Mulhouse, comme Saint-Étienne, où là, pour un budget stéréotypé de 250 000 euros, on peut éventuellement acheter 30 à 40 mètres carrés de plus. Donc là, ce n'est pas juste une petite chambre. C'est la chambre, le bureau, éventuellement la buanderie ou une deuxième salle de bain qu'on peut acheter.
Non, mais c'est quand même assez dingue parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand on dit l'opportunité d'acheter une passoire, on parle souvent de propriétaires potentiels investisseurs parce qu'ils vont jouer sur la décote à l'achat pour pouvoir après, machin, etc. Sauf que là, vous nous dites, en fait, ce n'est pas qu'un bon plan l'achat d'une passoire pour un investisseur, c'est aller aussi pour un primo-accédant, en fait. C'est quand même...
Juste un petit bémol, tu dis rien n'empêche effectivement d'acheter une passoire et faire ses travaux plus tard. Il y a quand même la banque aujourd'hui qui peut empêcher ça.
Oh, nos amis banquiers.
Ouais, il y a quand même, mais pour des bonnes raisons. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était encore le cas. On se disait ok, je te prête et tu feras tes travaux plus tard. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de crédits qui sont refusés si on n'est pas capable de montrer qu'avec son apport, le crédit bancaire, on arrive à boucler l'opération pour faire sortir ce statut de passoire.
Parce que ou les banquiers ont plus cher son crédit.
Une seule crainte, ou ouais. On va payer plus cher son crédit, mais les banquiers ont une seule crainte aujourd'hui et justifiée. C'est d'avoir en stock, effectivement, des passoires qui rentrent et qui ne sortent jamais du statut de passoire. Donc nous, on voit quand même beaucoup, pour être assez proche des banques, de dossiers qui sont refusés parce que justement, les clients disent « je ferai mes travaux plus tard » et le banquier dit « non, il faut que tu me montres, tu sauras les faire tout de suite ». Si c'est pas le cas,
et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième volet de cette analyse qui dit qu'il y a un gain brut, donc typiquement à Paris, si je reprends l'exemple des 10 mètres carrés, et en fait ton gain net après travaux, c'est seulement 1 mètre carré et demi.
Oui, parce qu'après il va falloir qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait quand on fait les travaux et pourquoi quand on fait une isolation par l'intérieur, on perd quelques mètres carrés, parce que ça va être ça le sujet. Mais d'abord, pour revenir sur, je trouve ça hyper intéressant sur ce que disait Hervé sur l'accès au crédit, parce que si moi je ne fais pas, quand bien même j'aurai mon crédit, si même la banque accepte sans me prévoir l'enveloppe travaux dans mon crédit immobilier, si je ne le fais pas tout de suite, plus tard, ce n'est pas dit que j'ai un crédit, un éco-PTZ. Ça se trouve, je devrais passer par un crédit conso. Et là, en l'occurrence, en termes de financement, ça devient compliqué.
Ouais, alors ça dépend aussi de sa situation personnelle. Nous, ce qu'on voit beaucoup, nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir chez Vasco, qui ont acheté il y a quelques années. Une époque où tout allait bien pour eux, ils étaient mariés, ils avaient deux jobs.
Et puis, ils sont plus mariés, ils n'ont plus de job, c'est horrible.
Ou alors ils ont eu des charges, des enfants qui sont partis faire des études, etc. Et en fait, ils vont voir leur banquier en étant persuadés, ils avaient prévu dans leur tête qu'ils allaient effectivement réemprunter derrière, hein, sauf que leur situation personnelle ne leur permet pas de réemprunter. Ils se retrouvent coincés. Ils ont rénové une salle de bain, une cuisine, ils vivent correctement chez eux en ce moment, mais dès qu'il fait un peu chaud ou un petit peu froid, ils vivent très mal chez eux et ils ont besoin de faire des travaux. Donc effectivement, il y a pas mal de gens qu'on voit dans cette situation qui se retrouvent effectivement dans l'idée de faire des travaux plus tard parce que demain sera mieux qu'aujourd'hui, sauf que demain n'est pas forcément mieux qu'aujourd'hui et le banquier aujourd'hui...
C'est beau aujourd'hui... ce que vous dites,
Hervé. Ils ont dû acheter quand le taux était à 1,5. Quand le taux est à 3,5, effectivement, il y a ça aussi qui va venir les,
exactement.
Leur faire
donc,
mal.
Donc effectivement, c'est aussi pour ça que les banquiers sont prudents à juste titre là-dessus. C'est qu'ils voient, et nous, les banquiers nous envoient pas mal de ces dossiers-là, à qui ils ont dit oui il y a quelques temps pour acheter le bien, en misant sur le fait que les travaux soient faits plus tard. Et en fait, aujourd'hui, le client vient les revoir en disant « ça y est, je suis prêt pour les travaux, j'ai défini ce que je voulais faire ». Et le banquier lui dit « oui, j'aimerais bien pouvoir t'aider à faire les travaux, on a intérêt à ce que tu les fasses, mais simplement, je ne peux pas te prêter ».
Parce qu'Hervé, il faut rappeler ce que fait Vasco, alors je sais qu'on le fait à chaque fois, mais quand même, ça vaut le coup pour celles et ceux qu'on a captés en chemin. Vasco, vous faites quoi? Vous allez financer les travaux de rénovation pour des gens qui n'ont pas les moyens de faire les travaux de rénovation. En échange de quoi, vous prenez une part de la propriété du bien.
Nous, on est la voiture balai de la banque. C'est-à-dire quand la banque dit non, c'est pas très positif, hein, mais pour voir le verre à moitié vide, c'est comme ça que les banques parfois nous appellent. C'est effectivement exactement dans ce cas-là. On en a beaucoup, des gens qui ont acheté il y a 3 ans, 4 ans, qui ont déjà remboursé une part de leur crédit, qui ont mis un apport, donc qui sont propriétaires, mettons, de 30-40% de leur maison, copropriétaires finalement avec leur banque, et qui ne peuvent pas la rénover. Donc dans ce cas-là, tout le monde est perdant. Le propriétaire en premier lieu, mais aussi la banque qui détient un actif qui est G ou qui est F, qui déprécie, avec un ménage malheureusement qui a une facture de gaz qui va doubler, j'espère pas, potentiellement dans les 6 prochains mois, qui va arrêter de rembourser son crédit. Donc la situation peut être assez critique. Et là, on nous appelle effectivement, alors on n'a pas une baguette magique, mais nous, on utilise notre source de financement.
C'est le parpaing magique.
Valeur du bien. Qui est la valeur du bien, on va sortir une partie de la valeur du bien tout simplement en essayant d'aller chercher l'argent là où il est. Et on y arrive de plus en plus parce qu'on en fait à peu près une dizaine par mois en ce moment, partout en France, en maison, en appartement. Et effectivement, le meilleur schéma, c'est celui-là. C'est-à-dire que je vais voir mon banquier, la banque dit non, et quand la banque dit non, plutôt que de ne pas faire,
Vasco dit oui.
Et Vasco peut dire oui. Vasco va regarder les travaux. Vasco va.
J'ai la bonne pub, hein. La banque dit non, Vasco dit oui. C'est
pas mal. Pas toujours. Non. Pas toujours. Parce que nous, on regarde des critères différents.
Oui. Et puis, il faut que faut que derrière aussi, vous disiez que les travaux qu'on va réaliser vont valoriser le patrimoine. C'est aussi
exactement.
Ça.
Nous, on s'en fiche de votre situation maritale, de votre job. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les travaux. On va être en revanche très regardant sur les travaux. On va regarder les devis, les artisans qui les réalisent. Et on va se faire une conviction, grâce à de la data comme celle de GoFlint, de la valeur qui sera créée sur le long terme par ces travaux.
Et bah, c'est précisément pour ça que je vais regarder MIAI maintenant, parce que vous le disiez quand même d'un mot, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait de dire, bon, bah voilà, il y a une valeur verte qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on essaye d'estimer régulièrement, et c'est ce que vous faites chez GoFlint, c'est de se dire, ok, je vais acheter plus grand au démarrage. Mais effectivement, est-ce qu'à la fin, quand j'aurai fait les travaux, bah, mon opération, elle sera vraiment rentable. C'est-à-dire que si derrière, je perds tout ou partie de ce que j'ai gagné à l'achat et qu'en plus, je paye les travaux, est-ce que c'est véritablement intéressant? Et c'est là que votre moteur permet de calculer ça, de mesurer ça.
En fait, on a une France à plusieurs vitesses. Typiquement, on peut se dire dans les très grandes villes, là où la demande va être forte, parce qu'on a un intérêt économique, parce qu'on veut être à proximité de certains endroits, finalement, la décote initiale. Parce que c'est la décote que peut offrir le DPE qui va créer une réserve de valeur pour l'acquéreur.
Ouais. Et donc lui permettre d'acheter potentiellement plus grand.
Exactement. En revanche, on va avoir typiquement Paris, Lyon, on va être plus ou moins autour de l'équilibre. Donc ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins.
Donc c'est-à-dire qu'en gros, je vais acheter plus grand, mais une fois que j'aurai fait les travaux, j'aurai perdu ce que...
J'aurais soit perdu ou gagné quelque chose qui est finalement négligeable ou que je ne peux pas finalement projeter de manière très fiable.
Ouais.
On va avoir des villes secondaires, notamment des métropoles régionales, où là, typiquement, je vais reprendre le cas du Mans, parce que c'est quelque chose qui, dans les statistiques, ressort de manière assez forte. C'est une ville qui a un bon emplacement, c'est-à-dire que je peux travailler dans des bassins d'emploi qui vont être plutôt la côte Atlantique ou la région Île-de-France. Je peux acheter pour, alors pardon de le dire comme ça, pas cher. Le DPE va frapper assez fort sur la décote. Donc, c'est-à-dire que le propriétaire qui me cède le bien, lui, va devoir accepter une décote de l'ordre de 20, 25, 30%. Et là, je peux en fait envisager 6, 7% de perte de surface dans le cadre de l'habitat collectif. Si c'est une maison de ville, encore mieux, parce que finalement...
Bah oui, je fais une isolation par l'extérieur et je ne perds pas de surface.
Ouais. Et aussi, le budget travaux lui-même, il n'est pas pareil. Si je fais une rénovation dans la Creuse ou à Paris... On va estimer, alors c'est stéréotypé, donc ne me tape pas dessus sur la tête s'il te plaît, qu'on est entre 300 et 900 euros du mètre carré.
Entre combien? Entre 300
et 900 euros du mètre carré pour la rénovation. Paris, Lyon vont être plus chers que la Creuse. Et on va avoir en fait donc cette ville de métropole régionale où c'est intéressant. Et on va avoir ensuite ce qu'on appelle des pièges de valeur. Pièges de valeur, ça va être typiquement, alors j'avais cité la Creuse et je m'en excuse, des villes où en fait le coût d'acquisition est tellement faible que déjà même si les travaux ne sont pas très onéreux et vont représenter une part trop importante...
De la valeur initiale du bien.
Et même de la valeur finale, en fait. Donc, même sans perte de valeur, parce que j'achète une maison, je la rénove, je n'arriverai pas à m'en sortir. Donc, je peux finalement avoir fait mon travail de dire « je l'ai bien acheté, je l'ai bien rénové, j'ai négocié dur mes devis avec les artisans RGE, j'optimise mon financement, je vais encore potentiellement perdre de la valeur en sortie ».
Et je te confirme ça, on le voit assez souvent, parce que nous sollicite assez peu dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes, on a plus de pouvoir d'achat, on a moins besoin de solutions alternatives, le banquier est plus d'accord de prêter dans une grande ville que dans une ville de taille moyenne. Mais quand on va dans des toutes petites villes, ou hors de la ville, dans des zones très rurales, où on achète quatre murs pour pas grand chose, et on s'imagine effectivement que ça va devenir une villa très cotée.
Magnifique.
La réalité, c'est que nous, l'équation économique est compliquée pour nous.
C'est-à-dire que c'est vraiment des sujets, enfin, parce que là, du coup, je fais le lien entre vous deux, mais typiquement, là, vous pourriez très bien rentrer dans votre machine les analyses de Goflint et dire, votre projet, madame, ça ne marche pas parce qu'à la fin, tout ce que vous allez gagner à l'achat, vous l'aurez perdu après la rénovation.
Voire plus.
Voire plus. Il y a des villes que vous avez réussi, des territoires.
Il y a des départements.
Ouais,
des territoires. Donc des territoires typiquement en zone non tendue, où la demande n'a
donc
pas.
Donc on parlait de la Creuse,
mais sans vouloir. On a la Haute-Nièvre aussi, on a des départements comme ça, où finalement il n'y a pas une demande forte structurelle. Ce ne sont pas des bassins d'emploi, il n'y a pas une activité économique qui fait que l'acheteur a besoin d'être là. Et on va avoir des biens qui sont, alors je vais mal le dire, je parle en tant que portail immobilier, non différenciés les uns des autres. Donc je peux acheter finalement celui d'à côté, celui qui est à 10 km, et donc le prix s'en ressent. Et ma capacité de revendre s'en ressentira aussi.
Pour le différencier, il faut aller au-delà de l'énergie. Nous, on finance l'énergie, mais on finance pas que l'énergie. On a commencé par l'énergie, mais aujourd'hui, on finance pas mal d'autres choses, de la mise aux normes, des mètres carrés en plus, d'autres choses. Et effectivement, quand on avance avec des propriétaires qui sont dans ce type de zone, avec des biens non différenciés...
Il faut faire plus, quoi.
Il faut faire un petit peu plus, parce que c'est pas une étiquette énergétique qui va faire que tout d'un coup, son bien va valoir deux fois plus cher que celui d'à côté. C'est parce qu'on a un étage de plus, c'est parce qu'on a une véranda, c'est parce qu'on a des choses...
Quelque chose, on va dire, de assez subjectif.
Qui font ressortir son bien du lot et qui font qu'un futur propriétaire se projettera de faire l'effort d'aller vivre dans ce coin-là parce que la maison vaut vraiment le coup.
Mais parce que c'est ça aussi le sujet, et encore une fois, on revient, on tourne en boucle sur cette valeur verte, mais elle n'est pas la même partout, et donc ça reste ce sujet. Mais après, rien ne dit que ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on a vu aussi les obligations de rénovation énergétique avec les interdictions à la location des F et des G. Pardon, mais depuis que c'est dans les tuyaux, parce que j'allais dire depuis que c'est adopté, mais en réalité, parfois, techniquement, on ne les voit pas. Mais bon, depuis que c'est dans les tuyaux, quand même, on a vu la création de cette valeur verte qui n'existait pas, une filière qui s'est créée, celui de la rénovation, vos boîtes qui se sont créées quand même derrière. Donc il y a un vrai sujet en fait là-dessus. Et donc qui nous dit que demain, dans la Creuse, ce ne sera pas le bon plan pour justement. Enfin voilà, c'est aussi ça. L'intérêt aussi, c'est quelque chose qui vit, qui bouge, ça, la valeur de notre patrimoine en réalité.
Mais l'immobilier va refléter notre vie au quotidien. Si demain on dit Paris a un taux de chômage de 50%, il n'y a plus aucun intérêt à vivre à Paris et c'est dans la Creuse qu'il faut aller. L'immobilier de la Creuse va commencer à monter, celui de Paris va mécaniquement baisser. Mais là, on va être sur des facteurs. Finalement, le DPE va être un amplificateur plus ou moins fort selon l'intérêt économique, l'intérêt à vivre, parce que dans la Creuse, tu peux avoir un acheteur britannique qui se dit « je vais m'acheter une maison dans la Creuse, je vais la payer 3 francs 6 sous, je vais mettre 4 millions d'euros de travaux, parce que je suis chez moi après, je suis tranquille. » Et en fait, l'équation économique, là, ça passe pas assez peu. C'est pas le marché, hein. c'est pas forcément comme ça que le marché va raisonner, mais tu peux avoir des outliers,
ouais,
pardon, qui vont se comporter de manière aberrante.
Mais la dynamique en termes de, je la rappelle quand même, en termes de valeur verte, si on la regarde depuis qu'on l'étudie à peu près correctement depuis 2019, elle est quand même d'une multiplication en 5 ans par 3.
Oui.
On était à peu près 3% en moyenne par étiquette énergétique gagnée en maison individuelle en 2019. Sur les statistiques de l'an dernier, on est à peu près, je parle sous contrôle, à 9% oui, en maison individuelle. Toutes choses égales par ailleurs. En appart, c'est un peu plus lissé. Je crois qu'on était à 1,5 ou 2 et on est passé à 5 en moyenne par étiquette. Donc, c'est une dynamique qui ne fait que progresser. Alors, ça ne montera pas jusqu'au ciel. Mais à mesure que l'énergie se renchérit, à mesure que la réglementation se durcit, moi, je vois assez peu de scénarios dans lesquels ça va dégringoler.
Oui.
Cet écart.
Bah après, je suis désolée, encore une fois, vous allez dire que je suis vraiment pas la plus optimiste d'entre nous sur ce plateau, mais enfin, il y a quand même le sujet politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction de celles et ceux qui nous gouverneront demain et qui seront peu ou pas enclins à continuer ou à carrément changer leur fusil d'épaule sur la réglementation énergétique, ça peut aussi changer drastiquement la donne, puisqu'on voit que c'est les décisions politiques qui ont aussi porté le secteur. Hein,
et, mais il ne changera pas l'état des biens. C'est-à-dire que les biens.
Non, mais si à un moment donné, par exemple, on arrête d'interdire les logements à effugés à la location, ça va faire un petit effet quand même, je pense.
Oui, à la marge sur les bailleurs qui représentent une part du parc qui n'est pas négligeable, les occupants et peut-être va être compensé par le fait que sur les occupants, ça va augmenter. Donc nous, en tout cas, je ne sais pas si vous nous suivez là-dessus et je ne sais pas si vous projetez la même chose. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on ne projette pas une valeur verte qui...
On n'a pas, pas de boule de cristal, on a des fichiers Excel.
On ne projette pas une valeur verte qui monte qui est déjà très élevée et qui monte beaucoup plus haut que ça. En revanche, on ne projette pas, en tout cas, dans les 5-10 années à venir, quelles que soient les évolutions politiques, de valeur verte qui s'effondre.
Parce que oui, mais d'ailleurs, verte, sinon, vous ne continueriez pas à les financer
absolument
aussi. Donc,
on les finance, nous, on les finance sur des horizons qui peuvent être de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui. Et donc, on fait pas mal tourner ces modèles avec des data de marché. Et en fait, les sous-jacents de tout ça, c'est pas la politique. La politique, ça fait des oscillations, ça fait des soubresauts, des chocs, mais qui sont de court terme. Ouais. Les sous-jacents structurels derrière.
Le sens de l'histoire, quoi.
Le sens de l'histoire, c'est le prix de l'énergie carbonée. Et le prix de l'énergie carbonée, il n'y a aucun scénario dans lequel il baissera. Et c'est le confort individuel dans des contextes où les écarts thermiques sont de plus en plus importants, où la Terre bouge et où pas mal de paramètres vont faire qu'il va falloir investir beaucoup dans son immobilier.
On a fait un petit peu de simulation. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe si demain les taux d'emprunt sur le marché français vont se rapprocher du marché britannique où on était il y a un an et demi à 6%.
Pourquoi vous faites ça en fin d'émission, Mihai, franchement?
Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur verte, on la voit tomber, mais en fait, c'est plutôt une baisse mécanique parce que l'acquéreur a moins de moyens. En revanche, les écarts
restent les mêmes.
Voilà, ouais, vont rester.
C'est-à-dire quand bien même on aurait une correction des prix, parce qu'on va pas se mentir, effectivement, je parle à chaque fois, début qu'on prend l'antenne de l'OAT, de la dette de l'État français à 10 ans, et évidemment, il se passe quand même quelque chose. Et évidemment, les courtiers nous disent d'ores et déjà qu'il y a plusieurs banques qui commencent de ci de là à réaugmenter un petit peu leur taux d'intérêt, qu'on a ce risque inflationniste, les décisions à venir de la Banque Centrale Européenne, et que bon an mal an, si le sens de l'histoire c'est la valeur verte, le sens de l'histoire à court terme c'est plutôt une hausse des taux d'intérêt. Quand bien même il y aurait une hausse des taux d'intérêt, quand bien même il y aurait une baisse des prix, en réalité,
les écarts resteront.
Les biens les plus performants seront toujours ceux qui vaudront le plus à ce stade, c'est à peu près ça.
Et les moins performants vaudront encore moins, en fait.
Bah voilà, donc du coup, c'est quand même aussi, ça nous rejoint sur le début de ce dont on parlait, c'est-à-dire le gain de surface en achetant un F ou un G, on va le payer encore moins cher. Ça, c'est... Et les prix des travaux ne vont pas beaucoup bouger pour le coup.
Alors là, ça dépend, parce qu'avec la crise en Ukraine a commencé, les promoteurs ont commencé à souffrir. Les artisans RGE ont commencé à devoir faire repasser un petit peu les hausses de coûts sur les acquéreurs. MaPrimeRénov est en mesure ou non d'absorber toute ou partie de ceci. En fait, c'est toute une chaîne. Par exemple, on parle du DPE. Le DPE va concentrer les effets de plusieurs facteurs externes qui vont en fait être traduits par ce qu'on appelle l'effet DPE de manière vulgaire.
Ouais, non, mais c'est une certitude. Maintenant, ma question, c'est est-ce que du coup, on est en train de conseiller là à celles et ceux qui nous regardent effectivement de se positionner sur des passoires là ou pas?
Nous, on recommande de les regarder et de
acheter.
Et de regarder dans quel marché on se trouve. Il y a des marchés où c'est intéressant, des marchés où c'est moins intéressant et des marchés où, en fait, l'équation économique ne devrait pas être le moteur de l'acquisition.
Et d'évaluer sa capacité et son courage à se lancer dans les travaux à court terme. Et ne pas s'imaginer que ces travaux se feront par magie dans les 10 prochaines années. Parce que très souvent, on va les faire par étapes, on va s'arrêter en chemin et à la sortie, on va se retrouver à vendre à un prix décoté.
Ou alors, on vous appelle après.
Ou alors on nous appelle et nous, effectivement...
En fait, Hervé, il est en train de donner un conseil qui ne fait pas son business, quoi.
Si, si.
Alors, bah non,
Nous, on nous appelle rarement à l'acquisition.
Bah oui, c'est pour ça. Donc, nous, vous avez tout intérêt à ce qu'on fasse pas les travaux à l'acquisition qu'on vous rappelle 3-4 ans plus tard, quoi.
À l'acquisition, en général, les gens font avec leur banque ou ne font pas. On nous appelle plutôt quand ça n'a pas été fait. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, si on achète une passoire thermique, il faut se projeter dans un monde où on sait les financer dans les 2-3 prochaines années. Et pas se dire que la passoire thermique, que le DPE va évoluer, que la Terre va se réchauffer et que tout ira bien demain, parce que la réalité, c'est que ça ira pas mieux demain et qu'il faut se projeter dans une rénovation assez court terme.
Même si le DPE peut bouger. On l'a vu bouger de temps en temps avec des changements de population de biens qui...
Oui, les choses... Mais non, mais les choses sont quand même pas figées. Mais il y a un sens à l'histoire que vous avez donné quand même, Hervé, et c'était important de le rappeler. Merci aussi à Mihai. Mihai, d'ailleurs, vos chiffres sur Goflin, c'est en accès libre si je veux rentrer.
En accès libre, on a une carte de France, on peut regarder les 6000 codes postaux avec les effets par code postal.
Et ben voilà, Mihai, Gavril Oyu, je l'aurais fait deux fois, je suis tellement fière de moi, CEO de Goflin et Hervé Degrève, le cofondateur de Vasco. Restez avec moi parce qu'on va essayer de retrouver notre pro de l'IMO qu'on n'avait pas réussi à capter.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Jean-François Bégaud, vous êtes avec nous ?
Oui.
Oui ! Responsable donc de l'agence Illico Travaux de Redon. Pour terminer, j'avais promis qu'on parlerait de ce super projet de rénovation que vous avez mené. Voilà, je voulais que vous me racontiez cette histoire de cette maison que les propriétaires voulaient simplement embellir, mais que vous avez convaincu de faire des travaux de rénovation un peu plus importants et pour le coup avec un gain assez spectaculaire.
Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai accompagné une personne qui venait d'acheter une maison des années 50 dans son jus. Et cette personne souhaitait faire des travaux uniquement d'embellissement. Et, et donc, moi, je lui ai dit qu'elle pouvait bénéficier d'aide pour la rénover totalement. Et donc, résultat, elle a réalisé une rénovation totale.
Mais du coup, avec cette aide dont elle a bénéficié, c'est quelque chose justement dont elle n'aura peut-être pas pu bénéficier si elle s'était contentée de travaux d'embellissement. C'est aussi ça le sujet. Donc elle a eu finalement un levier important pour faire des travaux plus importants et valoriser son patrimoine de manière aussi beaucoup plus importante.
Et oui, tout à fait, tout à fait. En fait, elle a pu bénéficier de 48 000 euros d'aide sur un total de travaux de 200 000 euros de travaux, donc ça fait quand même quasiment 20 à 25% d'aide, donc oui ça a fortement bénéficié à son choix de rénover sa maison totalement.
Ouais. On est où exactement? Elle est où cette maison précisément?
Alors elle est située à Guipry-Montsac en Ille-et-Vilaine.
J'essaie de regarder Mihai qui restait sur le plateau, vous savez, le patron de Goflin, et je voulais savoir si de tête comme ça, il pouvait me dire si c'était un bon secteur pour faire des travaux de rénovation.
Alors de tête, c'est un bon secteur parce qu'on a une décote assez forte et en même temps, les prix de l'immobilier représentent quand même une plus-value importante par rapport au coût des travaux.
Oui, donc du coup, là, en l'occurrence, cette propriétaire, elle a surtout très très bien joué son coup puisque là, visiblement, Jean-François, elle est passée de la note, donc c'est ce qu'on disait F à B. C'est quand même assez spectaculaire. C'est courant chez vous quand vous engagez des travaux de rénovation comme ça, de gratter autant de notes de DPE?
Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, nous, je l'ai accompagné, je l'ai mise en relation avec un accompagnateur Rénov, puisqu'il faut savoir que pour bénéficier de ma prime Rénov, il faut être en relation avec un MAR. Et donc, ce MAR nous a réalisé un audit énergétique. Et dans cet audit énergétique, eh bien, nous avons eu des scénarios de travaux. Et donc dans ce scénario de travaux qui amenait à une classe énergétique B, nous avons réalisé donc l'isolation par l'intérieur, des rampants, des plafonds et surtout des doublages extérieurs. Oui. Donc,
c'est intéressant ce que vous dites, doublage extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup l'isolation pas par l'intérieur, donc elle a pas en plus cette dame-là perdu une mètre carré. Donc c'est vraiment tout de
oui,
gain.
Quand on parle des doublages extérieurs, oui, non, c'est alors on a isolé par l'intérieur les murs extérieurs, si vous voulez. Voilà, c'est plutôt comme ça.
Waouh! Alors là, vous m'avez perdu. Voilà. vous m'aviez vendu du rêve, donc elle a perdu des mètres carrés au final?
Non, en fait, on avait retiré les doublages existants.
D'accord.
On a retiré les doublages existants et puis on a réisolé.
Un jeu à somme nulle. Juste un mot, d'un dernier mot, Jean-François. Là, on parle d'une maison, effectivement, j'ai bien précisé quand on a démarré l'émission et que je vous avais lancé tout à l'heure, je disais, on est sur une maison et donc c'est ce que permet de faire aujourd'hui la maison, c'est-à-dire avec des travaux considérables, on peut véritablement atteindre des notes dignes du neuf aujourd'hui sur la maison. On est d'accord que c'est plus compliqué, voire inatteignable, quand on parle d'appartements dans le collectif.
Ah bah tout à fait. Dans du collectif, on est. Il y a les autres appartements autour, il y a la construction en elle-même. Et c'est vrai que dans une maison individuelle, c'est beaucoup plus facile en fait d'atteindre des classes énergétiques B, quoi.
Merci Jean-François. Jean-François Bégaud, responsable de l'agence Illico Travaux de Redon. Je vous ai lancé là-dessus, Jean-François, parce que c'est mon petit appel. Je vous regarde tous les deux encore en plateau. Mais c'est mon petit appel à celles et ceux qui nous gouvernent de dire, bah, vous voulez un dispositif d'aide à l'investissement locatif, favoriser la rénovation, le fameux Jeanbrun. Et bah, dans ces cas-là, il va falloir revoir vos critères, parce que je rappelle qu'à ce stade, tant qu'on modifie pas les règles pour bénéficier de ce dispositif dans l'ancien, il faut rénover, 30%, consacrer 30% du montant de l'achat à des travaux et atteindre la fameuse note A ou B. Autant vous dire que dans le collectif, c'est pas possible. Donc on espère que les choses vont changer. A priori, c'est ce qu'on nous dit, mais on attend comme Sorane, ne vois-tu rien venir. Merci à tous d'avoir été sur le plateau des experts de l'IMO. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.